Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. On se retrouve aujourd'hui pour Histoire de savoir et on va parler de TSA, c'est-à-dire Troubles du spectre de l'autisme, avec vous. Philippe Imgeland, bonjour.
Bonjour.
Et donc vous êtes chercheuse chez ACT, Autisme en contexte. C'est donc un institut, on peut dire ça comme ça, de l'ULB, enfin qui travaille à l'ULB sur l'autisme.
Voilà, un centre interfacultaire et pluridisciplinaire sur la recherche dans l'autisme.
Alors, si je vous ai invité aujourd'hui, c'est que vous êtes intervenu dans les journées Déclic. Les journées Déclic parlent de santé mentale. C'est bien ça, ce sont des journées qui se passent chaque année.
Enfin, c'est quoi, exactement. Un peu le but ? Oui, voilà, c'est des journées qui se passent chaque année et qui ont pour thème la santé mentale. Et donc, il y a différents thèmes qui sont abordés par rapport à la santé mentale, dont des conditions, des troubles neurodéveloppementaux comme l'autisme. Donc, j'ai intervenu dans ce cadre-là.
Alors, c'est marrant parce que... C'est marrant, enfin, je ne sais pas si on peut dire que c'est marrant. Pourquoi placer finalement l'autisme dans des journées avec des thématiques de santé mentale ? Est-ce que l'autisme, c'est un problème, entre guillemets, de santé mentale ?
Alors, donc, l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental. Donc, ce n'est pas une maladie, voilà, pour être un peu mettre le contexte par rapport à ça. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes de santé mentale dans l'autisme. Et on sait aussi que les problèmes de santé mentale, ça influence la qualité de vie. Et donc, c'est une thématique très importante à aborder pour essayer de mieux comprendre quels sont les problèmes de santé mentale que les personnes autistes vont avoir. Et est-ce que ceux-ci diffèrent de ceux des personnes non autistes, par exemple, pour aussi voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ces problèmes de santé mentale et du coup de la qualité de vie des personnes autistes, et de sorte à ce que ce soit, spécifique à leurs besoins.
Ok. Et donc, moi, je disais au début qu'on allait faire une émission sur le TSA, le trouble du spectre de l'autisme. Est-ce qu'on parle encore aujourd'hui de TSA ? Est-ce que c'est encore un vocable qui est utilisé ?
Oui, donc ça, c'est vraiment la terminologie clinique. C'est ce qui est repris dans le DSM-5, le CIM, donc les classifications vraiment...
De l'OMS.
Voilà, exactement. Mais c'est vrai que depuis certaines années, il y a aussi... en fait, un débat sur comment parler, de tous ces troubles de manière générale, mais aussi très fort, un débat qui est très fort centré sur l'autisme. Et donc là, on va avoir la neurodiversité, qui est un concept qu'on entend de plus en plus, la neurodivergence, etc. Et donc, c'est très important de continuer à utiliser les terminologies officielles, parce qu'il faut continuer à avoir une précision scientifique. Mais c'est quand même important aussi d'avoir ces débats et de réfléchir à quelle terminologie on utilise, parce qu'on sait que la manière dont on parle des choses influence la manière dont on les conçoit. Donc c'est un débat qui est très important.
Et donc, trouble du spectre de l'autisme, c'est bien parler d'un spectre, c'est-à-dire qu'on peut avoir des personnes autistes au potentiel, enfin, je ne sais pas si on dit au potentiel, et de l'autre côté du spectre, des personnes avec une déficience intellectuelle profonde, non-verbaux, etc. Donc c'est vraiment le trouble du spectre de l'autisme. En fait, ça regroupe énormément de caractéristiques, en fait.
Voilà, donc par la notion de spectre, on essaie vraiment de capturer l'hétérogénéité qui caractérise vraiment l'autisme. Et donc, comme vous dites, voilà, il y a des profils très différents, avec des besoins aussi différents. Et donc, on a toujours les mêmes symptômes qui doivent être présents chez toutes ces personnes, mais qui vont se manifester de manière différente, avec des degrés différents et aussi des besoins de soutien différents.
Alors, on parle aussi de l'autisme comme étant une neurodivergence. Alors, c'est quoi la neurodivergence ?
Alors, bonne question.
Vaste question, oui.
Donc, je vais peut-être commencer par... définir ce que c'est la neurodiversité, parce que je pense qu'il est plus facile de parler de ce concept-là. C'est deux choses différentes, mais qui sont aussi liées forcément. Donc la neurodiversité, ça fait référence donc à la variation naturelle qu'il y a dans le fonctionnement des cerveaux humains, et qui vont du coup avoir un impact sur la manière dont on peut interagir socialement, on peut apprendre, etc. Donc on peut se comporter. Et donc, on peut faire un peu un parallèle quand on parle de neurodiversité avec la biodiversité. Donc, ça fait vraiment vraiment référence à la variation naturelle qu'il y aura dans tous les cerveaux humains. Et donc, c'est-à-dire que dans la neurodiversité, ça inclut et les personnes qu'on pourrait appeler neurotypiques, donc qui ont un fonctionnement neurocognitif, on va dire, dominant dans la société, voilà, et les personnes neurodivergentes, donc qui vont, on va dire, s'éloigner de cette norme neurocognitive. Et donc, la neurodivergence et le être neurodivergent, c'est, donc, c'est ça en fait, c'est avoir un style cognitif qui va s'écarter de manière assez conséquente de la norme neurocognitive.
Donc si, comment est-ce qu'on peut définir cette norme neurocognitive qu'on...
Donc ça,
En fait, le cognitif, c'est la façon dont le cerveau fonctionne.
Voilà, oui.
Donc finalement, ça regroupe tout.
Donc la, neurodiversité, oui, ça va recouvrir toutes les variations du cerveau, donc des humains. Et ça, on peut aussi le voir vraiment comme un fait, en fait, comme un fait biologique. Alors que la neurodiversité, c'est pas un trait. Et ça, c'est là où on peut faire s'amener vers la neurodivergence. Donc c'est une personne qui est neurodivergente. Donc okay. une personne n'est pas neurodiverse. Une
D'accord.
personne est neurodivergente. Une personne a une neurodivergence.
Ok. Et donc, c'est une autre façon de penser, finalement.
Oui, c'est une autre façon d'avoir... C'est plutôt un cerveau qui a une autre façon de fonctionner, on va dire, et qui, forcément, influence la manière dont une personne va apprendre, va se comporter, va interagir socialement. Et donc, l'idée aussi dans... on va dire, le paradigme de la neurodiversité... c'est de voir la neurodiversité comme une façon d'être, on va dire, okay. mais qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon d'être. Donc, c'est juste une variation naturelle qui existe. Et donc, c'est ça, en fait.
C'est ouais. comme quand je dis une autre façon de penser. En fait, c'est déjà un peu bizarre à dire, en fait. Puisque ça entend qu'il y a autre chose, alors qu'en fait, il y aurait une norme.
Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça.
Donc, ça devient compliqué, de se dire qu'en fait, on fonctionne tous pareil. Ben non, en fait. Non,
oui, c'est ça, voilà. Ouais.
Et ça, est-ce que ça, vous avez une idée de à peu près le taux de la population qui pourrait être neurodivergente ou...
Alors, j'ai des chiffres pour l'autisme, mais j'avoue que... Vu que je ne suis pas spécialiste en d'autres neurodivergences, mmh. Je ne pourrais pas m'avancer sur toutes les neurodivergences.
Ce qui permet du coup de poser la question de qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la neurodivergence que l'autisme ?
Alors ça va un peu dépendre des auteurs dans la recherche, dans la littérature scientifique. J'ai pas l'impression qu'il y ait encore de consensus. Il y a des chercheurs qui vont avoir des définitions, on va dire, assez restreintes et qui vont, par exemple, inclure que des troubles neurodéveloppementaux génétiques ou innés comme l'autisme, le TDAH. Il y en a d'autres qui vont avoir une définition plus large et qui vont inclure aussi des variations neurologiques qui sont acquises, comme des variations neurologiques liées à un traumatisme. Donc voilà... Il n'y a pas encore de consensus, je dirais, sur qu'est-ce qui peut être inclus dans cette neurodivergence. Mais...
Ça devient compliqué. Ouais. De nouveau, c'est compliqué.
Voilà, c'est un débat très compliqué, effectivement. Et je pense que, en tout cas, dans les médias et dans un peu ce qui est un peu plus, on va dire, hors littérature scientifique...
Vulgarisation scientifique.
Voilà, c'est ça. J'ai l'impression que c'est quand même plus souvent associé à... des troubles neurodéveloppementaux comme l'autisme, le TDAH, la dyslexie, etc. Mais,
ok, voilà. donc on pourrait faire rentrer aussi tous les troubles 10 dans la neurodivergence.
Oui, c'est souvent... Maintenant, je pense que de manière le plus courante, c'est ce qui est donné comme exemple. Et donc, je pense que c'est aussi important d'avoir ces débats et de se poser ces questions parce qu'il faut, voilà, c'est quand même important de savoir à quoi ça fait référence, qu'est-ce qu'on peut inclure dedans, qu'est-ce qu'on n'inclut pas dedans. Donc voilà.
Est-ce qu'on parle de handicap alors dans ce cas-là ? Vous pouvez hurler, hein, je vous autorise.
Oui, je pense que c'est. Donc, c'est important de. Je pense que c'est important de réfléchir aux mots qu'on utilise de sorte à ce qu'ils vont refléter au mieux quand même la réalité des personnes concernées. Et donc, pour ça aussi, c'est très bien de aussi demander aux personnes concernées elles-mêmes. La terminologie qu'elle trouve la plus adéquate. Et par exemple, nous, on a fait une étude avec le réseau international U21 qui essaie d'être de mener une recherche sur l'autisme qui est plus inclusive et aussi plus diversifiée. Donc souvent on fait des recherches à travers plusieurs pays. Et ici pour le cas, on avait fait une recherche sur les personnes autistes francophones et on leur demandait la terminologie qu'elles préfèrent qu'on utilise pour parler de l'autisme. Et par exemple, quelque chose qui est sorti de cette étude, c'est que en fait il faut pas tout mettre sur le dos de la différence. Donc c'est pour ça que votre question me fait penser à ça. C'est que je pense que c'est encore important de parler de handicap parce que c'est handicapant. Alors après, il faut aussi voir qu'est-ce qui est handicapant lié à la structure de la société. Donc il faut, c'est ça aussi un peu l'idée, c'est de pas tout mettre sur le dos des personnes par exemple autistes, de pas mettre toutes les difficultés sur leurs caractéristiques intrinsèques. Il y a aussi des difficultés qui vont exister à cause de la société et de la manière dont elle fonctionne. Donc voilà, je pense que c'est très important de pas tout mettre sur le dos de la différence, parce que dans certains cas, voilà, il y a des difficultés réelles, et si jamais on met tout sur le dos de la différence, je pense qu'alors là, on peut aussi être... que ce soit plus un... Enfin, comment dire, que ça peut se retourner contre-productif.
Oui, bien sûr.
Donc il faut quand même... voilà, je pense qu'il y a aussi... ça a bien prendre en compte quand on parle justement de toutes ces choses-là, c'est de, forcément il faut essayer d'être le plus respectueux possible,
ouais, bien.
Et de pas utiliser quand même des termes comme déficit ou voilà, qui peuvent quand même donner cette impression qu'il y a un manque chez la personne alors que c'est pas le cas. Par contre, si on met tout sur le dos de la différence, je pense que là aussi du coup on risque de
passer à côté de quelque chose,
parce voilà,
qu'on,
oui.
On parle aujourd'hui d'inclusion, de société inclusive.
Voilà.
On en est loin de la société inclusive, c'est un idéal qui reste, on essaye d'y atteindre, mais pour l'instant, en fait, on n'y est pas encore, cette société inclusive.
Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour permettre aux personnes neurodivergentes de participer de manière aussi plus, en accord avec leurs besoins dans la société, parce que pour l'instant, je pense qu'il y a quand même encore... beaucoup d'opportunités manquées pour ces personnes-là, de fait que la société n'est pas toujours organisée de sorte à ce qu'elles puissent être incluses.
Il y avait une chaîne de grands magasins d'ailleurs qui avait sorti tout un processus où en fait ils baissaient la lumière, la musique pour les personnes neurodivergentes.
Voilà.
Mais certaines heures de la journée. Alors on se demande pourquoi est-ce que ça pourrait pas être toutes les heures, parce que je crois que c'était des heures creuses.
Oui, j'ai vu
mais
ça.
Mais c'est déjà un pas.
Exactement.
Ou est-ce que vous trouvez que c'est juste du... Je sais pas si on dit c'est de l'autisme washing parce qu'on parle de greenwashing.
Oui. Ce que je vois souvent comme mot utilisé, c'est la tokenization. Donc c'est quand on utilise aussi ce genre de concept ou de terme pour donner l'impression qu'on est inclusive, mais en réalité, dans les faits... ce n'est pas le cas. Donc, je pense que tout effort peut être quand même accueilli comme un premier pas, mais c'est sûr que ce n'est pas suffisant.
Donc voilà, la neurodivergence, donc finalement, c'est quelque chose. Mais en même temps, vous parliez, je reviens sur un peu ce que vous disiez, de ne pas tabler sur la différence. Pourtant, quand on parle de neurodivergente, on parle quand même de divergent, donc d'écarter de la norme. On reste dans une différence malgré tout, malheureusement, par les termes.
Oui, bien sûr, oui. Mais l'idée, c'est que c'est un peu que ce ne soit pas uniquement mis sur... Donc, il faut toujours se dire... il faut toujours... quand même bien garder en tête qu'il y a... C'est pas tout à mettre sur le dos, on va dire, des personnes neurodivergentes, mais pas non plus tout sur le dos de la société. Donc, il faut essayer de... Voilà.
Et donc, finalement, est-ce qu'on est dans un développement qui est différent, alors ? Enfin, différent, voilà, de nouveau de quoi, hein, différent de quoi, d'un développement ordinaire. Parce que si on parle de troubles neuro... Troubles, je ne vous dis troubles. Hein, de neuro... donc, vous parliez de troubles neurodéveloppementaux. Donc, c'est une question de développement, en fait. C'est un développement un peu à côté
de
la norme.
Oui, donc, dans le sens que l'autisme, c'est... présent dès la naissance, donc c'est dans ce sens-là, donc c'est pas acquis plus tard.
On détecte pas dès la naissance.
Hein, voilà, c'est plus vers à partir de un an et demi normalement, on peut commencer à voir si jamais le développement justement va diverger d'un développement typique. Et donc aussi, l'autisme, c'est en grande partie génétique, donc c'est ça aussi ce que ça veut dire, c'est que c'est présent vraiment dès la naissance. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est développemental, parce que ça va vraiment impacter tout le développement, et c'est aussi quelque chose qui est présent toute la vie. Donc c'est pas...
On n'en guérit pas, quoi.
Non.
Alors quand vous dites que c'est génétique, c'est là où on sait maintenant que la base de l'autisme a une base génétique, en fait, voilà, une cause génétique.
Oui, dans le sens où c'est lié à des variations génétiques, donc c'est bien ça. Donc ça ne veut pas dire non plus qu'il y a un déterminisme génétique, mais ce que la recherche montre, c'est que c'est... on va dire la probabilité d'être autiste, c'est en grande partie déterminée par les gènes.
Ok. Mais on n'a pas encore défini quel gène est...
Alors c'est très complexe parce qu'il y a énormément de gènes qui sont associés à l'autisme, donc c'est difficile pour l'instant de aussi comprendre exactement comment ça fonctionne, parce que c'est aussi souvent... la réalité est complexe, et donc c'est pas que les gènes, il y a aussi des facteurs, par exemple... qui peuvent influencer pendant la grossesse, etc. Donc voilà. Mais c'est en tout cas en grande partie génétique. Donc c'est ça qui est quand même important à retenir. Et que, voilà.
C'est toujours qu'un faux départ, sans changement d'adresse. J'ai beau vider les placards, je retourne ma veste. Quand c'est moi qui pars, c'est que l'autre reste. Pourtant, tous les soirs.
Évidemment sur la suite, parce que j'ai vu qu'aussi vous aviez fait pas mal de recherches sur genre et autisme, et on parle d'ailleurs, quand on parle d'autisme, on voit souvent des hommes. L'autisme au féminin existe, mais est sous-représenté. Il y a moins de femmes autistes, ça touche plus les hommes que les femmes.
Alors donc le ratio le plus courant qui est rapporté dans la recherche, c'est de 4 hommes diagnostiqués pour une femme autiste. Donc, en tout cas, dans la recherche, les hommes sont vraiment surreprésentés. Et il y a différents facteurs qui peuvent expliquer ça. Il y a des facteurs génétiques, mais il y a aussi des facteurs plus socioculturels liés à des biais qu'on peut avoir dans l'identification des femmes autistes, et aussi des différences dans la manière dont les filles autistes se présentent par rapport aux hommes autistes. Donc, il y a vraiment... différents facteurs qui peuvent expliquer pourquoi on identifie moins de femmes que d'hommes autistes.
Et donc, quand vous dites ces 4 hommes diagnostiqués pour une femme diagnostiquée, donc c'est toujours une question de diagnostic, en fait. Est-ce que, j'ai pu le lire, qu'on dit que les femmes autistes sont moins diagnostiquées. En fait, il y a moins de diagnostics de femmes autistes.
Oui.
Donc, en fait, il y a moins de femmes qui vont se faire diagnostiquer. Est-ce que c'est ça un peu que ça veut dire?
Alors, oui, ça veut
qu'elle passe sous les radars.
Voilà, ce que ça implique, c'est qu'on en loupe. Alors, est-ce que le ratio serait 1-1 si on pouvait, imaginons, être une voyante et identifier toutes les femmes et tous les hommes ? Ça, c'est difficile à dire. Mais en tout cas, il y a des recherches qui ont montré que ce ratio peut être moins grand, enfin, la différence peut être moins grande, dans certains cas, ce qui implique qu'il y a justement des biais de diagnostic et socioculturels qui sont quand même actifs, hein, qui font en sorte qu'on identifie moins de femmes que d'hommes autistes. Et par exemple, une des raisons, c'est que vu que la recherche a... En fait, la plupart de la recherche est faite sur des hommes autistes, ça veut dire que tous les outils de diagnostic qui ont été développés, toutes les connaissances qu'on a de l'autisme, ils sont basés sur des échantillons essentiellement masculins. Et ce qui veut dire, ce qui a comme implication que... Du coup, notre connaissance de l'autisme, elle est biaisée sur les hommes masculins et qu'on a peu de connaissances, au final, sur le profil des femmes autistes. Et on a aussi, un cercle un peu vicieux que les femmes autistes qu'on inclut dans la recherche, c'est peut-être des femmes autistes qui ont un profil qui est plus prototypique masculin. Et donc, en fait, les femmes qui seraient différentes, on continue à les louper parce qu'elles ne rentrent pas dans les... Enfin, elles n'ont pas un profil qui est facilement identifiable avec les critères qu'on a maintenant. Donc, c'est une situation assez complexe. Et j'ai par exemple une collègue au sein de ACT qui a fait sa thèse sur aussi les différences de genre dans l'autisme. Et ce qu'elle a fait pour essayer d'un peu pallier à ce cercle vicieux, c'est de regarder les sœurs en fait, des participants autistes, vu qu'on sait qu'il y a cette partie génétique et donc que forcément, il y a une probabilité plus élevée qu'une sœur ou un frère soit autiste si jamais il y a déjà quelqu'un autiste dans la famille. Et là, elle a vu qu'effectivement, il y avait des... Donc, ces sœurs autistes, certaines étaient, avaient un profil, on va dire, comme les filles neurotypiques et d'autres qui étaient quand même avec un profil qui pourrait être autiste. Donc, ça, ce serait une piste pour essayer de voir qui sont ces filles qu'on va potentiellement rater. Quels sont leurs profils pour essayer de les inclure dans la recherche et répondre un peu à ce problème circulaire qu'on a où on n'arrive pas à étudier les filles autistes qu'on loupe en fait.
Et donc là, j'ai une double question. Alors, je vais vous poser la double question, parce que je vais l'oublier. Donc, est-ce que d'un côté, il y aurait un autisme masculin et un autisme féminin qui auraient des caractéristiques pareilles mais différentes aussi et que c'est par là qu'on raterait plus les femmes? Ou alors est-ce que d'un autre côté, est-ce que les femmes se suradaptent peut-être ou se camouflent, enfin je ne sais pas, et que l'autisme du coup est entre guillemets caché?
Ouais, c'est très
complexe. Deux questions différentes, mais voilà.
Donc on sait qu'il y a du camouflage dans l'autisme.
Dans l'autisme en général?
Oui. Et ce qu'on sait aussi de...
Excusez-moi, oui. C'est-à-dire de camouflage. Donc, parce que c'est moi qui utilise ces mots-là, mais c'est vous qui l'avez utilisé hors antenne.
Oui, c'est vrai. Donc camouflage, c'est quand on fait référence à, donc, que ce soit conscient ou inconscient, c'est modifier ses comportements pour paraître moins autiste.
Okay.
Et donc ça peut être, d'essayer de moins parler de son intérêt restreint, si on a l'impression que c'est ça souvent qui va... give it away qu'on est autiste, ou alors ça peut être essayer de ne pas stimer, etc. Donc il y a différentes stratégies qui peuvent être mises en place pour essayer d'apparaître moins autiste, et ces stratégies peuvent être conscientes ou inconscientes. Et ce que la recherche a montré, c'est que donc, le camouflage, c'est les hommes et les femmes autistes vont camoufler, mais c'est quand même plus souvent observé chez les femmes que les hommes. Donc c'est pas spécifique au phénotype autisme féminin, mais c'est quand même plus souvent mis en place par les femmes autistes.
Est-ce que c'est un biais de genre? Enfin, je sais pas si on peut parler de biais de genre. Est-ce que c'est ce principe de société qui finalement est genré, et donc est genré en les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça, et que c'est à ce niveau-là que ça se joue?
Je pense que c'est une des explications qui pourrait effectivement être mise en avant, hein, parce que les femmes sont quand même sont sanctionnées plus sévèrement socialement si elles sont atypiques. Donc je pense qu'il y a plus d'enjeux pour elles de devoir essayer de camoufler que des hommes autistes. Et je pense qu'elle... En tout cas, c'est aussi ce que la recherche montre, c'est quand même une pression plus forte sur les femmes de... Surtout au point de vue social, bah, d'être sociable, en fait. Ouais. On est quelqu'un qui, normalement, doit pouvoir gérer des interactions sociales de manière fluide. Et donc, si jamais on divide cette attente... Ben, on est sanctionné d'autant plus sévèrement quand on est une femme qu'un homme. Je pense que les hommes aussi, forcément, sont sanctionnés socialement si jamais ils sont atypiques, mais je pense d'autant plus quand on est une femme.
Et ce sont des stratégies qui se mettent en place dès l'enfance.
Oui, ça se met très tôt. Je pense, en fait, personne n'est rejeté, n'aime être rejeté. Donc je pense que dès les premières expériences de rejet, on va essayer de mettre en place quelque chose pour se protéger. Et c'est pour ça aussi que je parlais de... stratégie consciente et inconsciente, parce que parfois quand on parle de camouflage qu'en termes de stratégie consciente, on donne aussi cette fausse impression que, par exemple, les personnes autistes vont faire ça pour un peu, décevoir ou... non, pas décevoir en France, c'est en anglais ça, pardon... que c'est faire semblant et que du coup c'est comme si c'était parfois apparenté à du mensonge, alors que parfois c'est vraiment fait de manière... inconsciente pour se protéger, pour ne pas être rejetée, pour ne pas donc être exclue de la société. Donc c'est pour ça que je fais bien cette distinction, pour dire que c'est vraiment un peu un mécanisme de survie en fait qui est parfois mis en place. Donc et c'est très très taxant. Donc ça, c'est aussi une de nombreuses recherches qui ont montré que les personnes qui camouflent, elles sont extrêmement fatiguées par après, si elles ont dû camoufler, que c'est aussi lié à des niveaux plus élevés de dépression, d'anxiété, de stress. Donc c'est vraiment très lourd comme, voilà, comme stratégie à mettre en place. Et il y a parfois des gains sociaux. Imaginons de pouvoir avoir un job ou voilà, d'avoir un groupe d'amis, mais si jamais c'est un tel coup, voilà, c'est comme des choses auxquelles aussi en tant que société on doit réfléchir. C'est pas le but que les personnes autistes fassent autant d'efforts pour paraître non autistes.
Oui, c'est ça. Mais donc, quand vous dites paraître moins autiste, déjà, c'est d'une violence, en fait, de se dire qu'on ne peut pas paraître tel qu'on est. Et que c'est quoi qu'on essaye de gommer dans ces cas-là ? Parce que vous parlez d'intérêts restreints. Donc, en fait, ça fait partie des caractéristiques de l'autisme. Donc, il y a les intérêts restreints, mais il y a quoi d'autre ?
Ben, je pense que ça pourrait être tout comportement qui a mené à une sorte de rejet ou de sanction sociale. Donc,
mais en gros, c'est les caractéristiques de l'autisme.
Oui, c'est ça. J'ai pris des exemples, mais ça pourrait être énormément... Ça pourrait être un peu tout, je veux dire. Ça peut aussi... À mon avis, ça se manifeste quand même très souvent dans les interactions sociales, forcément.
C'est vraiment la caractéristique principale de l'autisme, c'est les interactions sociales qui posent...
Les deux symptômes principaux donc, sont des difficultés dans les interactions sociales et les intérêts, comportements à caractère restreint et répétitif. Donc ça, c'est vraiment les deux. Il faut avoir ces deux symptômes pour être diagnostiqué autisme et aussi souvent un traitement sensoriel altéré, que ce soit hypersensibilité ou hyposensibilité. Donc justement, quand on parlait des supermarchés qui...
Avec la lumière,
voilà, donc tout ça, c'est... et je pense que tout comportement lié à ces symptômes pourrait être sujet à être camouflé. Donc après, il y a des études qui ont regardé un peu les stratégies qui étaient mises en place, et c'est quand même souvent au niveau du relationnel. J'ai pris cet exemple de, par exemple... pas trop parler de ses intérêts restreints, parce que parfois c'est ce qu'on va leur reprocher, qu'il n'y a pas de cette réciprocité auquel on s'attend quand on est une personne non autiste. Et par contre, ce que des études ont montré, c'est que en fait, les personnes autistes, surtout entre elles, elles arrivent à très bien créer et négocier de la compréhension mutuelle, mais elles font ça un peu différemment que les personnes non autistes. Donc c'est aussi quelque chose qu'on doit essayer de nous, en tant que non autistes, aussi se dire, ben voilà, il y a différentes manières dont on peut interagir, et c'est pas pour ça qu'on n'arriverait pas à atteindre une compréhension mutuelle, mais ça sera peut-être fait de manière différente.
Et donc, on va revenir au genre et autisme, mais c'est, parce que là, vous êtes partie sur... C'est votre sujet d'étude, en fait, les interactions.
Oui, les interactions sociales, c'est dans quoi je fais mes recherches, effectivement.
Mais ce serait hyper intéressant d'en faire aussi, peut-être, une émission, une prochaine émission. Mais pour revenir au genre, qui est donc votre autre sujet d'étude. Donc, on parlait de camouflage. Donc, les femmes ont plus tendance à camoufler. Mais donc, dans cette question, il y avait aussi... Enfin, c'était l'autre question. Est-ce qu'il y a un autisme féminin et un autisme masculin où on aurait en fait des caractéristiques qui sont donc les deux caractéristiques que vous avez citées, mais donc il y aurait aussi des spécificités, voilà, en fonction du genre, un autisme en fonction du genre.
Mais ça c'est une très bonne question et qui n'a pas encore vraiment de réponse dans le sens où, comme je vous avais expliqué, on a un peu ce problème de circularité où souvent les filles qu'on intègre dans la recherche, c'est des filles qui ont été diagnostiquées souvent dans l'enfance par exemple, et qui du coup ont, on va dire, le même profil que les garçons, enfin qui ont pu être identifiées avec les critères qui sont plus, on va dire, biaisés profil masculin. Et du coup, celles qui ne sont pas diagnostiquées, bah, c'est compliqué de savoir c'est quoi leur profil. Donc, je ne pense pas qu'on peut encore vraiment répondre à cette question. Mais ce que je peux dire, c'est que, par exemple, donc les femmes et les hommes autistes ont les mêmes symptômes, forcément, pour être diagnostiquées autistes. Mais c'est vrai que la manière dont les symptômes peuvent se présenter peuvent être différents. Et donc, par exemple, il y a des études qui ont montré, dans un premier temps, on pensait « Ah, les filles autistes, en fait, ont des intérêts, moins d'intérêts restreints » que les garçons autistes. Et après, ce qu'on s'est rendu compte avec d'autres études qui ont été faites, c'est que c'est pas spécialement qu'elles en ont moins ou que c'est moins intense, etc., mais c'est que le contenu peut paraître en apparence plus typique. Donc par exemple, pour prendre des exemples quand même un peu prototypiques, mais souvent, quand on parle d'intérêt restreint, on peut parler par exemple de gares, de systèmes ferroviaires, et ça, c'est peut-être ce que les garçons autistes vont plus, ou les hommes autistes vont plus tendance à avoir, alors que les femmes autistes, c'est peut-être c'est plus quelque chose de socialement acceptable, en fait, comme la psychologie ou les animaux. Et du coup, si on, parfois on ne creuse pas suffisamment, en surface, ça va apparaître comme un intérêt socialement typique, alors qu'en fait, en intensité, ce serait tout aussi, on va dire, restrictif ou restreint que les systèmes ferroviaires. C'est juste que, voilà, en apparence, ça va paraître plus socialement acceptable. Et donc, ça, c'est une différence, voilà, qu'il peut y avoir entre les femmes et les hommes autistes, peut-être. Et elles ont tendance aussi, dans certaines recherches, à avoir des compétences linguistiques qui sont meilleures que les garçons. Donc c'est peut-être ça aussi qui peut faire qu'elles peuvent paraître avoir moins de problèmes de communication que les hommes et les autistes. Mais voilà, ça c'est...
Et là, on sait pourquoi. Enfin, c'est de nouveau une suradaptation.
Je pense que c'est aussi ce qu'on attend des filles. Parce qu'en fait, c'est aussi ce qu'on a vu, ce que les recherches montrent, c'est que les filles ont tendance à être diagnostiquées plus tard que les garçons, et plus vers l'adolescence, où là, les interactions sociales deviennent plus complexes, et donc des difficultés qui étaient peut-être pas aussi apparentes avant deviennent plus saillantes à l'adolescence, où là, tout d'un coup, c'est très important d'être dans la réciprocité, d'être compétente socialement. Et donc, je pense que voilà, il y a quand même des attentes qui sont mises sur les filles qui vont faire qu'elles vont être diagnostiquées plus tardivement.
Mais on vit très bien avec un autisme.
Oui.
Les personnes, finalement, actuellement, en plus, donc, on diagnostique beaucoup plus tôt. Donc, est-ce qu'on peut parler d'une proportion plus importante de personnes autistes aujourd'hui qu'il y a quelques années ?
Oui, la prévalence d'autisme a augmenté.
C'est des meilleurs tests où les gens se font plus tester ? Est-ce qu'on n'a pas un phénomène, je mets 15 000 guillemets là, on n'a pas un phénomène entre guillemets de mode ou est-ce qu'il y a, on diagnostique plus précocement aussi ?
Je pense qu'on est... On est devenu meilleur à diagnostiquer l'autisme parce qu'on a des meilleures connaissances. Il y a plein de facteurs en fait qui peuvent influencer le fait que la prévalence d'autisme a pu augmenter dans ces dernières années. Parce que les critères de diagnostic ont changé, on a des meilleures connaissances, donc voilà.
Mais même la population en général est peut-être plus au courant aussi de ce que c'est et que
est peut-être plus
attentive aussi.
Donc peut-être que les parents, du coup, vont être plus sensibles effectivement à certains comportements. Et donc tout ça, c'est vrai que la sensibilisation, évidemment, joue un rôle important.
Mais pas trop.
Dans quel sens ?
Je sais pas, c'est que... De cette, vous disiez aussi que cette prévalence donc de la part de personnes autistes dans la société a augmenté. Est-ce qu'on n'est pas aussi dans une crainte, enfin dans un surdiagnostic, une volonté de se diagnostiquer plus vite et peut-être sans vraiment toutes les raisons peut-être. Ça reste touchy, évidemment, comme question.
Et aussi, là, quand je parlais de la prévalence, c'était vraiment les cas diagnostiqués formellement, officiellement. Du coup, ça, c'est vrai que c'est un autre topic.
Oui, bien sûr. Voilà. C'est vraiment autre chose, parce que là, en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de spectre aussi. À mon époque, on avait comme référence Rainman.
Oui.
Désolée.
Voilà.
C'était la référence de l'autisme, c'était Rainman. Aujourd'hui, on a Good Doctor.
Voilà.
Bon, voilà.
Ce qui est de nouveau deux hommes, donc on n'a pas fait beaucoup d'amélioration, je pense, dans la représentativité. C'est un peu dommage parfois, effectivement. Bon, d'un côté, c'est bien de parfois vulgariser quand même et de partager quand même et de rendre l'autisme plus accessible à tout le monde. Mais c'est quand même dommage que parfois, ça reste quand même très stéréotypé et ça enferme quand même parfois les personnes autistes. Du coup, ça donne l'image que toutes les personnes autistes doivent avoir, par exemple, des super-pouvoirs. Ce qui est aussi une sorte de pression sur les personnes autistes qui n'est pas nécessaire, je pense. Il y en a qui en ont, mais pas tout le monde. Donc, je pense que, dans le sens, comme c'est présenté dans, par exemple, The Good Doctor, je pense que... Voilà.
Ou dans Rainman, il y a une boîte d'allumettes qui tombe et c'est le nombre d'allumettes qui sont tombées.
Ce serait bien, je pense, d'être quand même... plus proche de leur réalité pour essayer de vraiment répondre à leurs besoins. Et ça, je pense qu'on a quand même encore pas mal de travail à faire en termes de représentation.
Mais en termes de représentation, c'est un peu pour tous les pans ou toutes les personnes minorisées.
Oui, effectivement.
Dans les médias, on stéréotypiste toujours énormément, que ce soit au niveau de l'autisme, au niveau du handicap. C'est vrai qu'on voit toujours, quand on parle de handicap, on voit plus facilement des personnes trisomiques, atteintes de trisomie 21 plutôt que de personnes qui sont polyhandicapées, par exemple.
Exactement, oui.
Enfin, voilà, ça reste... Bon, c'est le même biais. On est toujours dans les mêmes biais, on n'a pas encore beaucoup évolué. Est-ce que vous avez, est-ce qu'on peut sur le site de ACT, est-ce qu'il y a un site de ACT déjà ?
Oui, il y a un site, oui.
Donc c'est act.ulb.be, j'imagine.
Oui.
Non. Enfin bref, ACT, c'est autisme en contexte. Et là, on peut avoir des infos. Il y a des articles peut-être qu'on peut consulter sur tout ce qui est de vos recherches, par exemple.
Oui, exactement. Il y a donc tous les articles scientifiques qui ont été publiés et revus par des pairs, donc la partie vraiment scientifique. Et aussi, pour toutes les études qu'on fait, une vulgarisation du contenu donc, de nos études pour les familles, les participants autistes. Donc là, il y a aussi accès à ça et il y a d'autres ressources sur le site.
Eh bien, Philippine Guéland, merci beaucoup en tout cas. Et donc, sur le site de Radio Campus, radiocampus.be, eh bien, vous aurez, on mettra le lien vers ACT. Et donc, beaucoup de lectures, en fait, à pouvoir lire, évidemment. Et puis, n'hésitez pas donc à vous renseigner, donc le TSA. Trouble du spectre de l'autisme avec vous, Philippine Guéland de ACT. Merci beaucoup d'être venue.
Merci beaucoup.
Et peut-être à une prochaine fois.
Oui, avec plaisir. Au revoir.
Au revoir.